Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'était le joyau de notre empire.
Peuple de Pompéi !
Qu'est-ce que c'est ?
C'est la montagne.
Mais malgré notre puissance,
tu le sens toi aussi.
Nous vivions dans l'ombre d'une force plus grande encore.
La plus grande salle de classe de France, c'est sur RTL.
Extrait de la super production Pompéi, super production américaine. Bonjour Virginie Giraud.
Il a une grosse voile, monsieur. Hein.
Oui.
Il a une
bonjour.
Grosse voile, monsieur.
Hein. Il fait peut-être même plus peur que le film. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Bonjour Virginie.
On est ravis de vous retrouver. Vous êtes l'une de nos profs préférées, docteur en histoire. Ce 24 octobre 79 après notre ère, une ville est rayée de la carte, détruite par la mauvaise humeur de son volcan, le Vésuve. Avant de raconter longuement et en détail cette tragédie, on va situer cette ville. Pompéi se situait où ?
Eh bien, Pompéi se situe dans le golfe de Naples. Alors, fermez les yeux, je vous emmène en voyage. Imaginez la mer bleue, le ciel bleu, une matinée du mois d'octobre plutôt sympathique. Nous sommes tout près de la ville de Naples, au sud de la ville de Naples, le long des pentes du Vésuve. Et là, effectivement, se trouve une petite cité, plutôt très, très bourgeoise, on pourrait dire, avec des belles maisons, des grandes rues qui font des fourches en direction de petites venelles, il y a plein de cafés partout, ça grouille de monde, ça vit, les gens sont plutôt joyeux. Et là, effectivement, fin de matinée, il va se passer un événement que personne n'avait jamais vu.
Virginie Giraud, je vous pose la question de cette situation de Pompéi sur la carte à l'époque, parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus près de la mer, cette ville, en tout cas les vestiges de cette ville.
Eh oui, tout à fait. Quand on visite Pompéi aujourd'hui, on rentre par un endroit qui s'appelle la Porta Marina, la porte marine qui autrefois était le port de Pompéi qui se situait donc au bord de la mer, mais avec l'éruption du Vésuve, toute la côte a été bouleversée. Aujourd'hui, la mer se situe à 2 km plus loin. Donc le paysage a été totalement modifié.
On est donc ce 24 octobre 79, fin de matinée. Que se passe-t-il ? Comment le Vésuve commence à se faire entendre ?
Eh bien, ça fait plusieurs jours déjà qu'il y a des petites secousses telluriques, des petits tremblements de terre. Mais bon, dans la région, ça arrive fréquemment. Il y avait eu un grand tremblement de terre en 62 après Jésus-Christ. Mais ce matin-là, il y a une espèce d'explosion gigantesque, un bruit énorme et un panache de fumée commence à s'élever au-dessus de la montagne du Vésuve. Alors, ce n'est pas des petites fumerolles ce jour-là. C'est vraiment quelque chose de gigantesque, comme une bombe atomique. Et on voit des débris volcaniques qui s'élèvent sur une colonne gigantesque à plus de 12 kilomètres. Il faut imaginer que depuis Pompéi, où les gens se situent sur le forum, dans les rues, dans les jardins, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est totalement sidéré. Et à Pompéi, on voit petit à petit commencer à retomber une pluie fine de cendres grises. On se dit, tiens, c'est quand même assez étonnant tout ça. Et puis, en une dizaine de minutes, la cendre se change en petits cailloux blancs, des petits lapillis, des petites pierres ponces qui flottent. C'est assez amusant. Mais les minutes passent et ces petits lapillis deviennent de plus en plus gros jusqu'à devenir des énormes pierres extrêmement dangereuses. Et là, il faut prendre une décision. Soit on fuit, soit on va se cacher dans sa maison.
Et donc, alors justement, la population va se scinder en deux d'une certaine façon ?
Et oui, une majorité de la population va réunir quelques affaires très rapidement. Donc on prend des petites bourses en cuir, on met des bijoux, des pièces de monnaie en or, enfin tout ce qu'on peut transporter facilement, on jette un manteau sur ses épaules et on va se jeter le long des routes, puisque dans la région de Naples, comme partout dans l'Empire romain, il y a des grandes routes pavées. Donc on se jette le long des routes et on fuit en direction de Naples, puisque le vent semble amener les débris volcaniques en direction de Pompéi. Or, Naples est plus au nord, donc on file en direction de Naples. Il y a quelques personnes qui vont dans le port, qui vont essayer de partir en bateau, mais le problème, c'est que la mer s'est en partie retirée et que les vents contraires empêchent de quitter le port de Pompéi par la mer.
Et ceux qui s'échappent par la route, est-ce qu'ils vont réussir à échapper à cette destruction de Pompéi ?
Eh bien, ils vont réussir effectivement à y échapper pour une bonne partie d'entre eux. On parle de plusieurs milliers d'habitants qui se jettent le long des routes et qui vont essayer de gagner la ville de Naples dans un chaos abominable, puisque plus les heures passent et plus les débris volcaniques retombent aux alentours de la cité du Vésuve. Et on peut imaginer le marasme que c'était grâce à Pline le Jeune, qui était un témoin oculaire des événements. Il était au Cap Misène, donc en face du golfe de Naples.
C'est
et il voyait absolument vraiment tout ce qui se passait. Alors, c'est un sénateur qui est un chroniqueur antique, donc on pourrait dire entre l'écrivain et le journaliste, et il va raconter tout ce qu'il a vu à un historien qu'il connaît personnellement, qui s'appelle Tacite et à qui on doit les plus grands récits sur l'Antiquité.
Mais Virginie Giraud, il n'y a pas eu de coulée de lave à Pompéi ?
Alors non, il n'y a pas de coulée de lave à Pompéi puisque le Vésuve est un volcan avec ce qu'on appelle une éruption plinienne. Donc, pour célébrer Pline, le jeune qui nous a raconté ce qui s'était passé. Et une éruption plinienne, eh bien, ce n'est pas une éruption avec de la lave comme on peut l'imaginer quand on regarde les documentaires sur la vulcanologie avec la lave rouge qui s'écoule tranquillement. Ce n'est pas le Stromboli, le Vésuve. Et au contraire, les volcans avec des éruptions dites pliniennes, ce sont des volcans explosifs. Donc il faut imaginer que les débris volcaniques qui sont au sommet du cône du volcan sont poussés par des forces telluriques qui viennent de l'intérieur, qui vont expulser le bouchon du volcan comme un bouchon de champagne, sauf qu'il y a des kilomètres et des kilomètres cubes de débris volcaniques, de gaz, de pierres, de cendres qui s'élèvent et qui tout ce qui s'élève doit retomber, c'est la base de la physique, et qui va donc retomber sur la ville de Pompéi et les villes alentours. Et lorsqu'une partie de cette colonne s'effondre, ça fait ce qu'on appelle une nuée ardente. Donc on a tous ces matériaux volcaniques qui dégringolent le long de la pente du Vésuve. Ça peut aller jusqu'à 300 km/h, donc c'est vraiment une vague qui submerge tout ce qu'elle croise, et avec une température qui peut monter à 300 degrés. Donc c'est pas très sympathique d'être sur la route d'une nuée ardente.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mes frères, regardons ce rivage une dernière fois et tournons-lui le dos pour toujours.
La curiosité retourne à l'école.
Sur RTL.
Regardez les cendres de Pompéi et en elles voyez l'avenir de ce vaste empire qui un jour mourra atteint de son propre mal. But if you close your
eyes, does it... La tragédie de Pompéi que nous raconte Virginie Giraud, docteur en histoire, 24 octobre 79, après Jésus-Christ. Donc Pompéi, c'est une ville assez bourgeoise, c'est un peu la Saint-Trope des Romains. On est près de Naples, il y a donc cette première éruption, vous nous l'avez décrite, c'est une vague de gaz, de matériaux volcaniques qui descend la pente du Vésuve à plus de 300 km/h et à plus de 300 degrés. Mais alors moi, ce que j'ai découvert en préparant l'émission, c'est que le lendemain matin, il y a une deuxième explosion ?
Et oui, effectivement, il y a plusieurs nuées ardentes qui ont dévalé sur Pompéi. Et effectivement, donc la majorité des gens ont pu quitter la ville pendant la première journée, mais certains ont préféré rester chez eux dans l'espoir que la colère du Vésuve allait se calmer. Mauvaise décision, j'aime autant vous le dire. Et ils ont fini par se dire, à un moment, il va quand même falloir partir parce qu'on voit bien qu'on va être en danger. Et à l'aube, alors c'est pas une aube joyeuse, le ciel est gris, l'air est saturé de gaz volcanique, des gens vont essayer de quitter la ville. Sauf que là, ils vont devoir sortir par les premiers étages des maisons, parce qu'il y a eu tellement de débris volcaniques qui sont retombés sous forme de pluie dans la ville que tous les premiers étages sont bloqués par les débris de la pile. Il faut imaginer ce que ça donnerait si Paris, le premier étage de Paris disparaissait sous des cailloux. Enfin, ce serait exactement ça. Donc les gens essayent de sortir par les premiers étages, ils portent des torches, ils ramènent avec eux quelques bijoux, quelques piécettes pour essayer de survivre, le minimum vital. Et là, au petit matin, ils vont être cueillis par la deuxième nuée ardente qui va dévaler sur eux et les figer pour l'éternité, puisque ces débris volcaniques vont se solidifier autour des personnes qui vont se trouver sur son chemin. Et lorsque les archéologues vont faire des recherches à fin 19e, début 20e siècle, à chaque fois qu'ils vont retrouver une de ces personnes, qu'on va appeler les fuyards, eh bien, on va couler du plâtre dans les interstices laissés par la chair qui s'est dissoute après les siècles, et on va retrouver la forme exacte de leur corps que l'on va pouvoir dégager de la gangue de boue solidifiée. Et là, c'est très, très émouvant parce qu'on voit ces personnes cueillies dans leur dernier mouvement, parfois avec la bouche ouverte en train de prendre une dernière respiration, parfois avec les mains devant le visage. On voit un bébé qui a été fauché avec les vêtements qui ont remonté le long de son corps. C'est vraiment extrêmement émouvant et ces fuyards sont conservés soit au musée de Naples, soit dans les réserves de Pompéi et on peut en voir certains et on oublie trop souvent que ce sont des moules reliquaires, c'est-à-dire qu'il y a les ossements de la personne à l'intérieur et que ce ne sont donc pas des objets d'art, mais des êtres vivants fauchés par la mort et que l'on doit respecter leurs souvenirs.
Virginie Giraud, on connaissait l'histoire de Pompéi, mais il faut dire qu'on avait oublié pendant des siècles où se trouvait Pompéi, où se trouvaient ces vestiges qu'on peut aujourd'hui visiter quand on va sur le site de Pompéi en Italie.
Exactement. Alors, les pillards ont toujours su que quand on commençait à creuser des trous dans ce coin-là, on trouvait toujours des choses. Donc, il y a toujours eu des pillards pour creuser des galeries tout au long du 18e, du 19e siècle. Et lorsqu'on commence à avoir un véritable engouement pour l'archéologie au 19e siècle, on va commencer des fouilles qui vont commencer à avoir une tenue un petit peu scientifique. Et là, on va découvrir un panneau sur lequel il y a écrit en latin « République pompéienne ». Et là, les chercheurs sont sûrs d'avoir retrouvé la ville de Pompéi. Et à partir de là, on va commencer à dégager proprement le forum, la rue de l'Abondance, qui est la grande rue qui part du forum. Et on va accourir de toute l'Europe pour voir sortir de son linceul de cendres cette ville absolument incroyable qui va aussi inspirer des grands auteurs du 19e siècle, notamment Théophile Gautier.
N'en est possible et personne ne peut passer.
Ma femme et ma fille sont à Pompéi. Je dois absolument passer.
À Pompéi. Pompéi, c'est grand zéro. Personne ne va là-bas.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mauvaise nouvelle. Je viens juste de parler avec le directeur des sciences de l'Université de Rome. Pompéi va être enseveli sous 20 mètres de lave dans moins de 4 heures.
Restez curieux avec RTL.
On ne peut rien faire. Tu peux pas arrêter ce foutu volcan, mon vieux. Enfin, comprends.
Extrait d'Apocalypse à Pompéi, un film catastrophe américain aussi, bien sûr. C'est vrai que cette histoire de Pompéi, ville effacée, rayée de la carte le 24 octobre 79, après notre ère, Virginie Giraud, vous êtes notre prof d'histoire, docteur en histoire. Cette histoire, elle inspire énormément les fictions, les récits. Est-ce qu'elle est unique au monde, cette histoire, unique dans l'histoire ?
Alors, il y a eu d'autres villes qui ont été rayées de la carte par des volcans, notamment dans l'Antiquité, aussi dans l'Antiquité grecque. Quelques siècles plus tôt, il y a eu l'île de Terra qui avait un volcan explosif lui aussi. Le volcan a explosé, créant un gigantesque cratère noyé par les flots en son centre. Donc cette île qui a toujours une forme circulaire, quasiment d'anneau, se visite toujours. Mais on a pu constater que la ville avait été vidée de ses habitants, sans doute au premier signe de l'éruption. Et on n'a pas retrouvé de fuyards, contrairement à ce qui a été le cas à Pompéi.
Virginie,
et puis il y a Herculanum aussi.
Oui, une ville à côté de Pompéi, c'est ça qui a été en partie qui est complètement détruite ?
Complètement détruite également, elle est tout près de Pompéi, c'est une ville qui a à peu près la même allure, donc ville avec des très très grandes maisons, de grands thermes, un petit port qui servait tant pour la pêche que pour la plaisance, avec des maisons même encore plus belles, puisqu'il y a la célèbre Villa des Papyri, qui est l'une des plus belles villas que nous connaissions dans l'Antiquité aujourd'hui, et qui elle aussi a été rayée de la carte, et là l'histoire est terrible, puisque les habitants qui ont voulu rester sur place, c'est-à-dire majoritairement des femmes avec des enfants en bas âge et des personnes âgées, se sont réfugiés dans les cales à bateaux sur la plage en attendant qu'on vienne les chercher, sauf que la nuée ardente a dévalé la pente et passé par-dessus les cales à bateaux, les faisant littéralement cuire au four, et ils sont morts dans des conditions abominables, les ossements ont explosé exactement comme du verre dans un four, et on a retrouvé tous leurs ossements pêle-mêle dans les cales à bateaux. C'était absolument abominable.
Virginie Giraud, quand on visite Pompéi, il y a quelque chose qui est surprenant, ce sont les graffitis. Il y a beaucoup de graffitis, oui, d'ailleurs, qui nous en apprennent sur ce qu'était la vie quotidienne à l'époque. Et il y a l'un de ces graffitis qui a permis une découverte récente et importante. Pourquoi ?
Et oui, alors, quand vous avez parlé de la destruction de Pompéi, vous aviez dit effectivement qu'elle a été détruite le 24 octobre 79. Mais ça, on le sait définitivement grâce à un Pompéi qu'on a retrouvé lors de la campagne de fouilles de 2018 dans la Regio 5, donc le 5e arrondissement de Pompéi, si vous voulez. Et on a cru jusque-là que la ville avait été détruite le 24 août, tout simplement parce que les copies médiévales de Pline le Jeune avaient... Enfin, il y a eu sans doute des moines copistes qui se sont trompés, on a eu plusieurs dates qui sont passées dans différents manuscrits, et puis sur la compilation, on s'est dit, bon, bah, ça doit être le 24 août qui est la bonne date. Sauf que les archéologues ont trouvé des fruits divers, des châtaignes, des figues, des noix, les pressoirs venaient d'avoir servi pour les récoltes de vin, il y avait des braseros allumés, c'est donc qu'il faisait un petit peu frais, mais on n'avait aucun témoignage qui nous disait que c'était bien le 24 octobre. Et là, en 2018, on trouve sur un mur un graffiti fait avec un morceau de charbon, donc quelque chose qui ne va pas durer des années et des années sur un mur, où quelqu'un écrit « Il a très bien mangé ici en ce jour du 16 avant les calendes de novembre ». Et le 16 avant les calendes de novembre, c'est le 17 octobre, donc quelques jours avant la date fatidique du 24 octobre. Et cette fois, toute la communauté scientifique est d'accord.
Virginie Giraud, le fait que Pompéi ait comme ça été figé dans son dernier souffle, on a évidemment, grâce aux fouilles, retrouvé des monuments, des lieux forts. Quels étaient les endroits forts justement de cette ville ?
Alors, Pompéi, c'est une petite miniature de Rome, on pourrait dire, sauf qu'il n'y a pas de bas-quartier, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, la ville est construite, comme la majorité des villes romaines, autour de son forum, donc une grande place rectangulaire qui concentre toutes les activités civiques, juridiques et religieuses de la ville. Donc, il y a le temple d'Apollon qui n'est pas trop loin, il y a un temple qui est dédié aux empereurs romains aussi, qui se trouve au bout du forum. Et à partir de là, il y a les deux axes principaux de la ville, qu'on appelle le Cardo et le Decumanum, donc l'axe nord-sud et l'axe est-ouest, qui permettent de desservir toutes les ruelles de la ville. Et on va trouver, outre les très très belles maisons, parce que les maisons sont vraiment magnifiques à Pompéi, on va trouver des thermes publics, des tavernes, et comme la ville est très riche, elle possède aussi des établissements de spectacle, un théâtre, un odéon pour les spectacles de chant, et surtout un amphithéâtre pour les spectacles de gladiateurs.
On a retrouvé des bijoux, des bagues à Pompéi avec un motif du serpent. C'était quoi ? C'était la mode ?
Ah oui, le motif du serpent est très très à la mode et c'est une mode qui a été lancée par Cléopâtre un siècle plus tôt, hein, puisque lorsque Auguste, donc le premier empereur de Rome, a fait la conquête de la province d'Égypte, eh bien il voulait ramener la reine Cléopâtre comme trophée à Rome, mais elle s'est suicidée avant et il a fait défiler à Rome une statue de Cléopâtre avec un serpent enroulé autour du bras pour dire qu'elle s'était suicidée en se faisant piquer par un aspic, hein, ce qui a lancé cette fameuse légende dont on ne sait si elle est vraie ou pas, mais les Romaines voyant ce serpent enroulé autour du bras de la reine se sont dit oh, c'est super beau, on va faire des bijoux comme ça, et ça fait un siècle qu'elle se balade toute avec des bracelets serpentiformes.
Virginie Giraud, on a quelques secondes pour raconter qu'à Pompéi on a découvert des post-it aussi, les post-it de l'époque bien sûr, c'était quoi?
Évidemment, sauf qu'ils collaient moins bien, c'est ce qu'on appelle les ostracas, ce sont des tessons de poterie. Quand on casse des assiettes, des verres, des coupes en stigilé, donc cette poterie rouge foncée, eh bien, on ne les jette pas, on garde les tessons et on s'en sert pour gribouiller des petits mots, donc c'est l'équivalent des post-it aujourd'hui, ou des SMS, sauf que c'est votre esclave qui va aller porter le SMS à la personne qui en est le destinataire. Et on trouve parfois aussi, c'est sur ces ostracas, des enfants qui font des exercices scolaires et qui écrivent notamment des abécédaires pour s'entraîner à former les lettres. Et c'est très émouvant parce qu'on rentre vraiment dans le quotidien de ces gens et on touche du doigt leurs émotions et on voit à quel point ils nous ressemblent.
Merci infiniment, c'est toujours une joie de vous avoir. Vous êtes l'une de nos meilleures profs, Virginie Giraud.
Ah
merci
oui,
de
bien.
Nous faire du bien pendant ce confinement. Vous publiez La véritable histoire des 12 Césars. C'est chez Perrin, il faut vous lire. C'est aussi génial que quand on vous écoute.
Merci
à
beaucoup
bientôt,
à tous les deux.
Virginie.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Sur RTL.
La curiosité retourne à l'école.